Chapitre 13. Des arbres, herbes, racines et fruits exquis que produit la terre du Brésil. Ayant discouru ci-dessus tant des animaux à quatre pieds que des oiseaux, poissons, reptiles et autres choses ayant vie, mouvement et sentiment qui se voient en Amérique, avant encore que parler de la religion, guerre, police et autres manières de faire qui restent à dire de nos sauvages, je poursuivrai à décrire les arbres, herbes, plantes, fruits, racines, et en somme ce qu'on dit communément avoir une âme végétative qui se trouve aussi en ce pays-là. Premièrement, parce qu'entre les arbres les plus célèbres et maintenant connus entre tous, le bois de Brésil, duquel aussi cette terre a pris son nom à notre égard, à cause de la teinture qu'on en fait, et les plus estimés, j'en ferai ici la description. Cet arbre donc, que les sauvages appellent araboutan, croît ordinairement aussi haut et branchu que les chênes et les forêts de ce pays, et s'en trouve de si gros que trois hommes ne sauraient embrasser un tel pied. Et à ce propos de grands arbres, celui qui a écrit l'Histoire générale des Indes occidentales dit qu'on en a vu deux en ces contrées-là, dont le tronc de l'un avait plus de 8 brasses de tour et celui de l'autre plus de 16. Tellement, dit-il, que comme sur le premier qui était aussi haut qu'on eût su jeter une pierre à plein bras par-dessus, un cacique, pour sa sûreté, avait bâti sa logette. De quoi les Espagnols, qui le virent là niché comme une cigogne, s'en prirent fort à rire. Aussi faisait-il récit du dernier, comme de choses merveilleuses. Racontant encore le même auteur, qu'il y a au pays de Nicaragua un arbre qu'on appelle cerba, lequel grossit si fort que 15 hommes ne le sauraient embrasser. Pour retourner à notre Brésil, il a la feuille comme celle du buis, toutefois de couleur tirant plus sur le verguet et ne porte cet arbre aucun fruit. Mais touchant la manière d'en charger les navires, de quoi je veux faire mention en ce lieu, notez que, tant à cause de la dureté et par conséquent de la difficulté qu'il y a de couper ce bois, que parce que n'y ayant chevaux, ânes ni autres bêtes pour porter, charrier ou traîner les fardeaux dans ce pays-là, il faut nécessairement que ce soit les hommes qui fassent ce métier, et n'était que les étrangers qui voyagent par-delà sont aidés des sauvages, ils ne sauraient charger un moyen navire en un an. Les sauvages, donc, moyennant quelques robes de frise, chemises de toile, chapeaux, couteaux et autres marchandises qu'on leur baille, non seulement avec les cogniers, coins de fer et autres ferments que les Français et autres de par-de-ça leur donnent, coupent, scient, fendent, mettent par quartier et arrondissent ce bois de Brésil, mais aussi le portent sur leurs épaules toutes nues, voire le plus souvent d'une ou deux lieues loin, par des montagnes et lieux assez fâcheux, jusque sur le bord de la mer, près des vaisseaux qui sont à l'ancre, où les mariniers le reçoivent. Je dis expressément que les sauvages, depuis que les Français et Portugais fréquentent dans leur pays, coupent leur bois de Brésil, car auparavant, ainsi que j'ai entendu des vieillards, ils n'avaient presque aucune industrie d'abattre un arbre, sinon mettre le feu au pied. Et d'autant aussi qu'il y a des personnages par de ça qui pensent que les bûches rondes qu'on voit chez les marchands soient la grosseur des arbres, pour montrer, dis-je, que tels s'abusent, outre que j'ai déjà dit qu'ils s'en trouvent de fort gros, j'ai encore ajouté que les sauvages, afin qu'il leur soit plus aisé à porter et à manier dans les navires, l'arrondissent et accoutrent de cette façon. Au surplus, parce que durant le temps que nous avons été en ce pays-là, nous avons fait de beaux feux de ce bois de Brésil, j'ai observé que n'étant point humide comme la plupart des autres bois, mais comme naturellement sec, aussi en brûlant, ne jette-t-il que bien peu et presque point du tout de fumée. Je dirais davantage qu'ainsi qu'un de notre compagnie se voulut un jour mêler de blanchir nos chemises, ayant sans se douter de rien mis des cendres de Brésil dans la lessive, au lieu de les faire blanches, il les fit si rouges que quoi qu'on les sût laver et savonner après, il n'y eut ordre de leur faire perdre cette teinture, tellement qu'il nous les fallut vêtir et user de cette façon. Que ceux qui envoient exprès en Flandre faire blanchir leurs chemises, ou autres de ces temps bien goudronnés de par-de-ça ne m'en veulent croire, il leur est non seulement permis d'en faire l'expérience, mais aussi pour avoir plutôt fait et pour tant mieux lustrer leurs grandes fraises, ou pour mieux dire bavières de plus de 2 pieds de large comme ils les portent maintenant, ils les peuvent faire teindre en vert s'il leur plaît. Au reste, parce que nos touyupinambous sont fort ébahis de voir les Françaises et autres des pays lointains prendre tant de peine d'aller quérir leur arabotane, c'est-à-dire bois de Brésil, il y eut une fois un vieillard d'entre eux qui sur cela me fit telle demande. « Que veut dire que vous autres, Maïr et Péros, c'est-à-dire Français et Portugais, veniez de si loin quérir du bois pour vous chauffer? N'y en a-t-il pas en votre pays ?» À quoi lui ayant répondu que oui, et en grande quantité, mais non pas de telle sorte que les leurs, ni même du bois du Brésil, lequel nous ne brûlions pas comme ils pensaient, mais comme eux-mêmes en usaient pour rugir leurs cordons de coton, plumages et autres choses, que les nôtres l'emmenaient pour faire de la teinture. Il me répliqua soudain. « Voir ? Mais vous en faut-il autant ?»« Oui, lui dis-je, car, en lui faisant trouver bon, y ayant tel marchand notre pays qui a plus de frises et de draps rouges, voire même, m'accommodant toujours à lui parler des choses qui lui étaient connues, de couteaux, ciseaux, miroirs et autres marchandises que vous n'en avez jamais vues par de ça, un tel seul achètera tout le bois de Brésil, dont plusieurs navires s'en retournent chargés de ton pays. » « Ah ah ! Dit mon sauvage, tu me comptes merveille !» Puis, ayant bien retenu ce que je lui venais de dire, m'interrogeant plus outre, dit « Mais cet homme, tant riche, dont tu me parles, ne meurt-il point ?»« si fait !» lui dis-je, « aussi bien que les autres !» Sur quoi, comme ils sont aussi grands discoureurs et poursuivent fort bien un propos jusqu'au bout, il me demanda d'Herchef. Et quand donc il est mort, à qui est tout le bien qu'il laisse? À ses enfants, s'il en a, et à défaut d'y ceux, à ses frères, sœurs ou plus prochains parents. Vraiment, dit lors mon vieillard, lequel, comme vous jugerez, n'était nullement lourdeau, à cette heure connais-je que vous autres maïrs, c'est-à-dire français, êtes de grands folles, car vous faut-il tant travailler à passer la mer, sur laquelle, comme vous nous dites étant arrivé par de ça, vous endurez tant de maux, pour amasser des richesses, ou à vos enfants, ou à ceux qui survivent après vous. La terre qui vous a nourri n'est-elle pas aussi suffisante pour les nourrir? Nous avons, ajouta-t-il, des parents et des enfants, lesquels, comme tu vois, nous aimons et chérissons. Mais parce que nous nous assurons qu'après notre mort, la terre qui nous a nourris les nourrira, sans nous en soucier plus avant, nous nous reposons sur cela. Voilà, sommairement et au vrai, le discours que j'ai ouï de la propre bouche d'un pauvre sauvage américain. Partant, outre que cette nation que nous estimons en barbare se moque de bonne grâce de ceux qui, au danger de leur vie, passent la mer pour aller quérir du bois de Brésil afin de s'enrichir, encore y a-t-il que quelque aveugle qu'elle soit, attribuant plus à la nature et à la fertilité de la terre que nous faisons à la puissance et providence de Dieu, elle se lèvera en jugement contre les rapineurs, portant le titre de chrétiens, desquels la terre, de par de ça, est aussi remplie que leur pays en est vide quant à ses naturels habitants. Par quoi, suivant ce que j'ai dit ailleurs que les touyupinambous haïssent mortellement les avaricieux, plût à Dieu qu'afin qu'ils se servissent de sia de démons et de furies pour tourmenter nos gouffres insatiables, qui n'ayant jamais assez ne font ici que sucer le sang et la moelle des autres, ils fussent tous confinés parmi eux. Il fallait qu'à notre grande honte, et pour justifier nos sauvages du peu de soin qu'ils ont des choses de ce monde, je fisse cette digression en leur faveur. À quoi, à mon avis bien à propos, je pourrais encore ajouter ce que l'historien des Indes occidentales a écrit d'une certaine nation de sauvages habitant au Pérou, lesquels, comme il dit, quand du commencement que les Espagnols rôdaient en ce pays-là, tant à cause qu'ils les voyaient barbus que parce qu'étant si bragards et mignons, ils craignaient qu'ils ne les corrompissent et changeassent leurs anciennes coutumes, ne les voulant recevoir, ils les appelaient écume de la mer, gens sans père, hommes sans repos, qui ne se peuvent arrêter en aucun lieu pour cultiver la terre afin d'avoir à manger. Poursuivant donc à parler des arbres de cette terre d'Amérique, il s'y trouve de 4 à 5 sortes de palmiers dont entre les plus communs sont un nommé par les sauvages Guerau, un autre Iri. Mais comme ni aux uns ni aux autres je n'ai jamais vu de date, aussi crois-je qu'ils n'en produisent point. Bien est vrai que l'Iri porte un fruit rond, comme prunelles serrées et arrangées ensemble, ainsi que vous diriez un bien gros raisin. Tellement qu'il y en a en un seul trousseau tant qu'un homme peut lever et emporter d'une main. Mais encore n'y a-t-il que le noyau, non plus gros que celui d'une cerise, qui en soit bon. Davantage, il y a un tendron blanc entre les feuilles à la cime des jeunes palmiers, lequel nous coupions pour manger, et disait le sieur Dupont, qui était sujet aux hémorroïdes, que cela est servi de remède, de quoi je me rapporte au médecin. Un autre arbre que les sauvages appellent aéri, lequel, bien qu'il ait les feuilles comme celles de palmier, la tige garnie tout alentour d'épines aussi déliées et piquantes qu'aiguilles, et qu'il porte un fruit de moyenne grosseur dans lequel se trouve un noyau blanc comme neige, qui néanmoins n'est pas bon à manger, est à mon avis une espèce d'ébène, car outre que ce qu'il est noir et que les sauvages, à cause de sa dureté, en font des épées et massues de bois, avec une partie de leurs flèches, lesquels je décrirai quand je parlerai de leur guerre, étant aussi fort poli et luisant quand il est mis en besogne, encore est-il si pesant que si on le met en l'eau, il ira au fond. Au reste, et avant que passer plus outre, il se trouve de beaucoup de sortes de bois de couleur en cette terre d'Amérique dont je ne sais pas tous les noms des arbres, entre lesquels j'en ai vu d'aussi jaunes que buis, d'autres naturellement violets dont j'avais apporté quelques règles en France, de blanc comme papier, d'autres sortes si rouges qu'est le Brésil, de quoi les sauvages font aussi des espèces de bois et des arcs. Plus un, qu'ils nomment copahu, lequel, outre que l'arbre sur le pied ressemble aucunement au noyer, sans porter noix toutefois, encore les ait, comme j'ai vu, étant mis en besogne en meubles de bois, ont la même veine. Semblablement, il s'en trouve aucun qui ont les feuilles plus épaisses qu'un teston. D'autres, les ayant larges de pied et demi, et de plusieurs autres espèces, qui seraient longues à réciter par le menu. Mais surtout, je dirais qu'il y a un arbre en ce pays-là, lequel, avec la beauté, sent si merveilleusement bon, que quand les menuisiers le chapotaient ou rabotaient, si nous en prenions des copeaux ou des bûchilles dans la main, nous avions la vraie senteur d'une franche rose. D'autres, au contraire, que les sauvages nomment Away, qui puent et sent si fort les os que quand on le coupe ou qu'on en met au feu, on ne peut durer auprès. Et à ce dernier, quasi les feuilles comme celles de nos pommiers. Mais au reste son fruit, lequel ressemble aucunement une châtaigne d'eau, et encore plus le noyau qui est dedans, est si venimeux que, qui en mangerait, il sentirait soudain l'effet d'un vrai poison. Toutefois, parce que c'est celui duquel j'ai dit ailleurs que nos Américains font les sonnettes qu'ils mettent à l'entour de leurs jambes, à cause de cela, ils l'ont en grande estime. Et il faut noter en cet endroit qu'encore que cette terre du Brésil, comme nous verrons en ce chapitre, produise beaucoup de bons et excellents fruits, qu'il s'y trouve néanmoins plusieurs arbres qui ont les leurs beaux à merveille et cependant ne sont pas bons à manger. Et nommément sur le rivage de la mer, il y a forts arbrisseaux, qui portent les leurs presque ressemblants à nos nèfles, mais très dangereuses à manger. Aussi les sauvages, voyant les Français et autres étrangers approcher de ces arbres pour cueillir leurs fruits, leur disant en leur langage « ipaï », c'est-à-dire « il n'est pas bon », les avertissent de s'en donner garde. Youware, ayant l'écorce de demi-doigt d'épais et assez plaisante à manger, principalement quand elle vient fraîchement de dessus l'arbre, et, ainsi que je l'ai ouï affirmer à deux apothicaires qui avaient passé la mer avec nous, une espèce de gaïa. Et de fait, les sauvages en usent contre une maladie qu'ils nomment piance, laquelle, comme je dirais ailleurs, est aussi dangereuse entre eux qu'est la grosse vérole par-de-sein. L'arbre que les sauvages appellent choïne est de moyenne grandeur, a les feuilles presque de la façon et ainsi vertes que celles du laurier, et porte un fruit aussi gros que la tête d'un enfant, lequel est de forme comme un œuf d'autruche et toutefois n'est pas bon à manger. Mais parce que ce fruit a l'écorce dure, nos touyupinambous en réservant de tout entier qu'ils percent en long et à travers, ils en font l'instrument nommé maraca, duquel j'ai déjà fait et ferai encore mention, comme aussi tant pour faire les tasses où ils boivent qu'autres petits vaisseaux, desquels ils se servent à autre usage, ils en creusent et fendent par le milieu. Continuant à parler des arbres de la terre du Brésil, il y en a un que les sauvages nomment sabocaillé, portant son fruit plus gros que les deux poings et fait de la façon d'un gobelet, dans lequel il y a certains petits noyaux comme amandes et presque de même goût. Mais au reste, la coquille de ce fruit étant fort propre à faire vase, j'estime que ce soit ce que nous appelons noix d'Inde, lesquelles, quand elles sont tournées et appropriées de telle façon qu'on veut, on fait coutumièrement enchâsser en argent par-deçà. Aussi, nous étant par-delà, un nommé Pierre Bourdon, excellent tourneur, ayant fait plusieurs beaux vases et autres vaisseaux tant de ces fruits de saboaïké que d'autres bois de couleur, il fit présent d'une partie d'Iceux à Villegagnon, lequel les prisait grandement. Toutefois, le pauvre homme en fut si mal récompensé par lui que, comme je dirais en son lieu, ce fut l'un de ceux qu'il fit noyer et suffoquer en mer à cause de l'Évangile. Il y a au surplus en ce pays-là un arbre qui croît haut et élevé, comme les cormiers par-deçà, et porte un fruit nommé acajou par les sauvages, lequel est de la grosseur et figure d'un œuf de poule. Mais au reste, quand ce fruit est venu à maturité, étant plus jaune qu'un coing, il est non seulement bon à manger, mais aussi ayant un jus un peu aigré et néanmoins agréable à la bouche, quand on a chaud, cette liqueur rafraîchit si plaisamment qu'il n'est possible de plus. Toutefois, étant assez malaisés à abattre de dessus ces grands arbres, nous n'en pouvions guère avoir autrement sinon que les guenons, montant dessus pour en manger, nous les faisaient tomber en grande quantité. Pacoïr est un arbrisseau, croissant communément de 10 ou 12 pieds de haut, mais quant à sa tige, combien qu'il s'en trouve qu'il ont presque aussi grosse que la cuisse d'un homme, tant y a qu'elle est si tendre qu'avec une épée bien tranchante, vous en abattrez et mettrez un par terre d'un seul coup. Quant à son fruit, que les sauvages nomment paco, il est long de plus de demi-pied et de forme assez ressemblante à un concombre, et ainsi jaune quand il est mûr. Toutefois, croissant toujours 20 ou 25 serrés tous ensemble en une seule branche, nos Américains, les cueillant par gros floquets tant qu'ils peuvent soutenir d'une main, les emportent en cette sorte en leur maison. Touchant la bonté de ce fruit, quand il est venu à sa juste maturité et que la peau, laquelle se lève comme celle d'une figue fraîche, en est ôtée, un peu semblablement grumeleux qu'il est, vous diriez aussi en le mangeant que c'est une figue. Et de fait, à cause de cela, nous autres Français nommions ces pacots figues, vrai est qu'ayant encore le goût plus doux et savoureux que les meilleures figues de Marseille qui se puissent trouver, il doit être tenu pour l'un des beaux et bons fruits de cette terre du Brésil. Les histoires racontent bien que Caton, retournant de Carthage à Rome, y apporta des figues de merveilleuse grosseur, mais parce que les anciens n'ont fait aucune mention de celles dont je parle, il est vraisemblable que ce n'en était pas aussi. Au surplus, les feuilles du pacoer sont de figure assez semblable à celles de l'apatum aquaticum, mais au reste étant si excessivement grandes que chacune a communément 6 pieds de long et plus de 2 de large, je ne crois pas qu'en Europe, Asie ni Afrique, il se trouve de si grandes et larges feuilles. Car, quoique j'aie ouï assurer à un apothicaire avoir vu une feuille de pétasite qui avait une aune et un quart de large, c'est-à-dire ce simple étang rond, 3 aunes et 3 quarts de circonférence, encore n'est-ce pas approché de celle de notre pacoïr. Il est vrai que n'étant pas épaisses à la proportion de leur grandeur, aussi au contraire fort minces, et toutefois se levant toujours toute droite, quand le vent est un peu impétueux, comme ce pays d'Amérique y est fort sujet, n'y ayant que la tige du milieu de la feuille qui puisse résister, tout le reste alentour se découpe de telle façon que les voyant un peu de loin, vous jugeriez de prime face que ce sont grandes plumes d'autruche de quoi les arbrisseaux sont revêtus. Quant aux arbres portant le coton, lesquels croissent en moyenne hauteur, il s'en trouve beaucoup en cette terre du Brésil. La fleur vient en petites clochettes jaunes, comme celles des courges ou citrouilles de par-deçà, mais quand le fruit est fermé, il a non seulement la figure approchante de la feinte des coteaux de nos forêts, mais aussi quand il est mûr, se fendant ainsi en quatre, le coton que les Américains appellent ameniou en sort par trousseaux ou floquets, gros comme estoffe, au milieu desquels il y a de la graine noire et fort serrée ensemble en forme d'un rognon, non plus gros ni plus long qu'une fève. Et savent bien les femmes sauvages amasser et filer le coton pour faire des lits de la façon que je disais ailleurs. Davantage, combien qu'anciennement, ainsi que j'ai entendu, il n'y eut ni orangers ni citronniers en cette terre d'Amérique, tant il y a néanmoins que les Portugais, en ayant planté et édifié sur les rivages et lieux proches de la mer où ils ont fréquenté, ils n'y sont pas seulement grandement multipliés, mais aussi ils portent des oranges, que les sauvages nomment morgonha, douces et grosses comme les deux poings, et des citrons encore plus gros et en plus grande abondance. Touchant les cannes de sucre, elles croissent fort bien et en grande quantité en ce pays-là. Toutefois, nous autres Français, n'ayant pas encore, quand j'y étais, les gens propres ni les choses nécessaires pour en tirer le sucre, comme les Portugais ont les lieux qu'ils possèdent par-delà, ainsi que j'ai dit ci-dessus au chapitre 9e sur le propos du breuvage des sauvages, nous les faisions seulement infuser dans de l'eau pour la faire sucrer, ou bien, qui voulait, en sucer et manger la moelle. Sur lequel propos je dirai une chose, de laquelle, possible, plusieurs s'émerveilleront. C'est que, nonobstant la qualité du sucre, lequel, comme chacun sait, est si doux que rien plus, nous avons néanmoins quelquefois expressément laissé envieillir et moisir des cannes de sucre, lesquelles, ainsi corrompues, les laissant puis après tremper dans de l'eau, elles s'aigrissaient de telle façon qu'elles nous servaient de vinaigre. Semblablement, il y a certains endroits par les bois où ils croient force aux roseaux et cannes aussi grosses que la jambe d'un homme, mais comme j'ai dit au Pacoère, bien que sur le pied elles soient si tendres que d'un seul coup d'épée on en puisse aisément abattre une, si est-ce qu'étant fraîches, elles sont si dures que les sauvages, les fendant par quartier et les accommodant en manière de lancette ou langue de serpent, en arment ou garnissent si bien leurs flèches par le bout que d'y celles par eux roidement décochées, ils en arrêteront une bête sauvage du premier coup. Et à propos des cannes et roseaux, Chalcondyle, en son histoire de la terre des Turcs, récite qu'ils s'en trouvent en l'Inde orientale, qui sont de si excessive grandeur et grosseur qu'on en fait des nacelles pour passer les rivières, voire, dit-il, des barques toutes entières qui tiennent bien chacune 40 mines de blé, chacune mine de 6 boisseaux selon la mesure des Grecs. Le mastic vient aussi par petits buissons en notre terre d'Amérique, lequel, avec une infinité d'autres herbes et fleurs odoriférantes, rend la terre de très bonne et suave senteur. Finalement, parce qu'à l'endroit où nous étions, à savoir sous le Capricorne, bien qu'il y ait de grands tonnerres que les sauvages nomment toupans, pluies véhémentes et de grands vents, tant il y a néanmoins que ni gélant, neigeant, ni grêlant, jamais, et par conséquent les arbres n'y étant point assaillis ni gâtés du froid et des orages, comme sont les nôtres par-de-ça, vous les verrez toujours, non seulement sans être dépouillés et dégarnis de leurs feuilles, mais aussi tout le long de l'année, les forêts sont aussi verdoyantes qu'est le laurier en notre France. Aussi, puisque je suis sur ce propos, quant au mois de décembre, nous avons ici non seulement les plus courts jours, mais qu'aussi, transissant de froid, nous soufflons en nos doigts et avons les glaçons pendants au nez, c'est lors que nos Américains, ayant les leurs plus longs, ont si grand chaud en leur pays, que, comme mes compagnons du voyage et moi l'avons expérimenté, nous nous y baignions à Noël pour nous rafraîchir. Toutefois, comme ceux qui entendent la sphère peuvent comprendre, les jours n'étant jamais si longs ni si courts sous les tropiques que nous les avons en notre climat, ceux qui y habitent les ont non seulement plus égaux, mais aussi, quoique les anciens aient autrement estimé, les saisons y sont beaucoup et, sans comparaison, plus tempérées. C'est ce que j'avais à dire sur le propos des arbres de la terre du Brésil. Quant aux plantes et herbes dont je veux aussi faire mention, je commencerai par celles desquelles, à cause de leurs fruits et effets, me semblent plus excellentes. Premièrement, la plante qui produit le fruit nommée par les sauvages ananas, est de figure semblable au glaïeul et encore ayant les feuilles un peu courbées et cannelées tant alentour, plus approchante de celle d'aloès. Elle croît aussi non seulement emmoncelée comme un grand charbon, mais aussi son fruit, qui est de la grosseur d'un moyen melon et de façon comme une pomme de pin, sans pendre ni pencher de côté ni d'autre, vient de la propre sorte de nos artichauts. Et au reste, quand ces ananas sont venus à maturité, étant de couleur jaune azurée, ils ont une telle odeur de framboise que non seulement en allant par les bois et autres lieux où ils croissent, on les sent de fort loin, mais aussi quant au goût fondant en la bouche et étant naturellement si doux qu'il n'y a confiture de ce pays qui les surpasse, je tiens que c'est le plus excellent fruit de l'Amérique. Et de fait, moi-même étant par-delà, en ayant pressé tel dont j'ai fait sortir près d'un verre de suc, cette liqueur ne me semblait pas moindre que malsaine. Cependant, les femmes sauvages nous en apportaient plein de grands paniers qu'elles nomment panacons, avec des pacos dont j'ai naguère fait mention, et autres fruits, lesquels nous avions d'elles pour un peigne ou pour un miroir. Pour l'égard des simples que cette terre du Brésil produit, il y en a un entre les autres que nos Tuyupinambous nomment pétune, lequel croît de la façon un peu plus haut que notre grande oseille, à les feuilles assez semblables, mais encore plus approchantes de celles de Consolida major. Cette herbe, à cause de la singulière vertu que vous entendrez qu'elle a, est en grande estime entre les sauvages, et voici comment ils en usent. Après qu'ils l'ont cueillie et par petites poignées pendue et fait sécher en leur maison, en prenant quatre ou cinq feuilles, lesquelles ils enveloppent dans une grande feuille d'arbre en façon de cornet d'épices, mettant l'or le feu par le petit bout, et le mettant ainsi un peu allumé dans leur bouche, ils en tirent en cette façon la fumée, laquelle, combien qu'elle leur ressorte par leurs narines et leurs lèvres trouées, ne laisse pas néanmoins de tellement les sustenter, que principalement s'ils vont à la guerre et que la nécessité les presse, ils seront 3 ou 4 jours sans se nourrir d'autre chose. Vrai qu'ils en eussent encore pour un autre égard. Parce que cela leur fait distiller les humeurs superflues du cerveau, vous ne verriez guère nos Brésiliens sans avoir non seulement chacun un cornet de cette herbe pendu au col, mais aussi à toutes les minutes, et parlant à vous, cela leur servant de contenance, ils en hument la fumée, laquelle, comme j'ai dit, eux resserrant souvent la bouche, leur ressort par le nez et par les lèvres fendues comme d'un encensoir, et n'en est pas la senteur mal plaisante. Cependant, je ne l'ai point vu user aux femmes, et ne sais la raison pourquoi. Mais dirais-je qu'ayant moi-même expérimenté cette fumée de pétune, j'ai senti qu'elle rassasie et garde bien d'avoir faim. Au reste, combien qu'on appelle maintenant par-de-ça la nicotiane ou herbe à la rouanne pétune, tant s'en faut toutefois que ce soit de celui dont je parle, qu'au contraire, outre que ces deux plantes n'ont rien de commun, ni en forme ni en propriété, et qu'aussi l'auteur de la Maison rustique, livre 2, chapitre 79, affirme que la nicotiane, laquelle, dit-il, retient ce nom de M. Nico qui le premier l'envoya de Portugal en France, a été apportée de la Floride, distante de plus de 1000 lieues de notre terre du Brésil, car toute la zone torride est entre deux, encore y a-t-il que quelques recherches que j'ai faites en plusieurs jardins où l'on se vantait d'avoir du pétune, jusqu'à présent je n'en ai point vu en notre France. Et afin que celui qui nous a de nouveau fait fête de son angoumoise qu'il dit être vraie pétune ne pense pas que j'ignore ce qu'il en a écrit, si le naturel du simple dont il a fait mention ressemble au portrait qu'il en fait faire en sa cosmographie, j'en dis autant que de la nicotiane. Tellement qu'en ce cas je ne lui concède pas ce qu'il prétend, à savoir qu'il ait été le premier qui a apporté de la graine de pétune en France, ou aussi à cause du froid, j'estime que malaisément ce simple pourrait croître. J'ai aussi vu par-delà une manière de chou que les sauvages nomment caillouwa, desquels ils font quelquefois du potage, et ont les feuilles aussi larges et presque de même forme que celles du nénuphar qui croît sur les marais de ce pays. Quant aux racines, entre celles de Maniote et d'Aipi, desquelles, comme j'ai dit au 9e chapitre, les femmes des sauvages font de la farine, encore en ont-ils d'autres, qu'ils appellent étiches, lesquelles, non seulement croissent en aussi grande abondance en cette terre du Brésil que font les raves en Limousin et en Savoie, mais aussi ils s'en trouvent communément d'aussi grosses que les deux poings et longues de pied et demi, plus ou moins. Et combien que les voyant arrachées hors de terre, on jugea de prime face à l'assemblance qu'elles fussent toutes d'une sorte, Tantia néanmoins, d'autant qu'en cuisant les unes deviennent violettes, comme certaines pastenades de ce pays, les autres jaunes comme coing, et les troisièmes blanchâtres, j'ai opinion qu'il y en a de trois espèces. Mais quoi qu'il en soit, je puis assurer que quand elles sont cuites aux cendres, principalement celles qui jaunissent, elles ne sont pas moins bonnes à manger que les meilleures poires que nous ayons. Quant à leurs feuilles, lesquelles traînent sur terre comme Hedera terrestris, elles sont fort semblables à celles des concombres ou des plus larges épinards qui se puissent voir par-dessus. Non pas toutefois qu'elles soient si vertes, car quant à la couleur, elles tirent plus à celle de Vitis alba. Au reste, parce qu'elles ne portent point de graines, les femmes sauvages soignent tôt possible de les multiplier. Pour ce faire, ne font autre chose, sinon, œuvre merveilleuse en agriculture, d'en couper par petites pièces, comme on fait ici les carottes pour faire salade, et semant cela par les champs, elles ont au bout de quelque temps autant de grosses racines des tiges qu'elles ont semées de petits morceaux. Toutefois, parce que c'est la plus grande manne de cette terre du Brésil et qu'allant par pays on ne voit presque autre chose, je crois qu'elles viennent aussi pour la plupart sans main mettre. Les sauvages ont semblablement une sorte de fruit qu'ils nomment manobi, lesquels, croissant en terre comme truffes et par petits filaments s'entretenant l'un l'autre, n'ont pas le noyau plus gros que celui de noisettes franches et de même goût. Néanmoins, ils sont de couleur grisâtre, et n'en est pas la croise plus dure que la gousse d'un pois. Mais de dire maintenant s'ils ont feuilles ou graines, combien que j'ai beaucoup de fois mangé de ce fruit, je confesse ne l'avoir pas bien observé et ne m'en souviens pas. Il y a aussi quantité de certains poivres longs, duquel les marchands de par-deçà se servent seulement à la teinture. Mais quant à nos sauvages, le pilant et broyant avec du sel, lequel, retenant expressément pour cela de l'eau de mer dans des fosses, ils savent bien faire, appelant ce mélange yonké, ils en usent comme nous faisons de sel de table. Non pas toutefois, ainsi que nous, soit en chair, poisson ou autre viande, ils salent leurs morceaux avant que les mettre en la bouche, car eux, prenant le morceau le premier et à part, puisant puis après avec les deux doigts à chacune fois de se incouettent et l'avalent pour donner saveur à leur viande. Finalement, il croît en ce pays-là une sorte d'aussi grosse et large fève que le pouce, lesquelles les sauvages appellent comanda wasu, comme aussi de petits pois blancs et gris, qu'ils nomment comanda miri. Semblablement, certaines citrouilles rondes, nommées par eux morugan, fort douces à manger. Voilà, non pas tout ce qui se pourrait dire des arbres, herbes et fruits de cette terre du Brésil, mais ce que j'en ai remarqué durant environ un an que j'y ai demeuré. Sur quoi, pour conclusion, je dirais que, fait ainsi que j'ai ci-devant déclaré qu'il n'y a bêtes à quatre pieds, oiseaux, poissons, ni animaux en Amérique qui en tout et partout soient semblables à ceux que nous ayons en Europe, qu'aussi, selon que j'ai soigneusement observé en allant et venant par les bois et par les champs de ce pays-là, excepté ces trois herbes, à savoir du pourpier, du basilic et de la fougère, qui viennent en quelques endroits, je n'y ai vu d'arbres, herbes, ni fruits, qui ne différassent des nôtres. Par quoi toutes les fois que l'image de ce nouveau monde que Dieu m'a fait voir se représente devant mes yeux, et que je considère la sérénité de l'air, la diversité des animaux, la variété des oiseaux, la beauté des arbres et des plantes, l'excellence des fruits, et bref, en général, les richesses dont cette terre du Brésil est décorée, incontinent cette exclamation du prophète au psaume 104 me revient en mémoire. Ô Seigneur Dieu, que tes œuvres diverses sont merveilleuses par le monde univers. Ô que tu as tout fait par la grande sagesse. Bref, la terre est pleine de ta largesse. Ainsi donc, heureux les peuples qui y habitent s'ils connaissent l'auteur et créateur de toutes ces choses. Mais au lieu de cela, je vais traiter des matières qui montreront combien ils en sont éloignés.